Ah, c'est l'équivalent de la CIA. Il y a des discussions effectivement aujourd'hui entre Burns, le patron de la CIA, et les Russes, officiellement, notamment pour parler du nucléaire. Oui. Et pour dire aux Russes, attention, si vous allez jusque-là, voilà ce que sera notre réponse pour calmer les Russes sur ce côté-là.
Officiellement. Mais vous savez, quand deux chefs de sécurité, deux chefs de service d'espionnage parlent, on ne sait pas du tout de quoi ils parlent. Donc, ça a commencé déjà. Et de toute façon, dans le monde entier, tout le monde a compris que cette guerre était perdue et que la seule façon de s'en sortir, c'est de tout mettre sur le dos de Poutine et de s'en sortir. C'est la seule vraie issue, y compris pour la Russie.
Mais dites-moi, est-ce que Poutine ne pourrait pas être remplacé par des plus durs? Parce que, par exemple, quand on voit cette histoire de guerre en Ukraine, il a poussé son avantage. Il a eu la Tchétchénie, il a eu la Crimée. En Géorgie, finalement, on l'a entravé. Mais aujourd'hui, il est en train de perdre en Ukraine, peut-être la Crimée. Et puis, on voit aussi toutes les républiques qui sont le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, qui sont des républiques qui sont son flanc est et sur lesquelles la Russie a une grande influence et des échanges économiques colossaux, sur lesquels d'ailleurs la Chine, aujourd'hui, lorgne un peu. Et la Turquie. Et donc, ça s'affaiblit aussi sur l'est de l'Empire russe, que l'on voit moins aujourd'hui, mais que certains, j'imagine, en Russie, perçoivent. Donc, la question, c'est est-ce que des gens qui sont encore plus radicaux, plus durs que Poutine, voyant que l'Ukraine est un échec, que les républiques dans l'Est sont en train de vaciller, il ne faut pas reprendre tout ça en main, et d'une certaine façon, c'est pas la garantie qu'on aura derrière un régime plus doux que celui de Poutine.
Si, c'est possible, mais il ne vaut pas tenir longtemps.
Bon, attendez, Guillaume, au passage, je signale cette déclaration ce soir de Zelensky qui dit à l'instant que la Russie a détruit toutes les infrastructures cruciales à Kherson. Voilà ce que dit Zelensky. Guillaume Ancel.
Oui.
Juste une chose, Guillaume. Vous avez bien dit éliminer Poutine. Est-ce que c'est simplement éliminer Poutine de l'équation ?
L'évincer,
le faire sortir du pouvoir ou éliminer Poutine ?
Non, je pense qu'il n'y a aucune nation occidentale qui prendrait le risque d'aller tuer Poutine. Ça n'a pas de sens. Ça, alors là, ça pourrait créer un mouvement de résistance russe qui se sentirait agressé. Non, pour moi, il n'y a que les Russes qui peuvent l'éliminer. Mais c'est bien évincer. C'est le cœur du sujet est là. Et je suis... Je suis frappé quand on commence à sortir comme argument « Ah oui, mais il pourrait y avoir pire que lui. »
Je suis très inquiet
de ce genre de questions, parce que c'est la question qui a justifié le maintien de tous les dictateurs et de tous les tyrans dans le monde. Donc, le fait que Poutine doive être évincé est crucial. Qui le remplacera après? Mais on imagine un Medvedev prendre la suite. Et c'est impossible. De toute façon, il n'y a plus d'armée, il n'y aura plus de régime sécuritaire capable de soutenir un extrémiste. Ils seront obligés, au moins fictivement, de montrer un changement radical de politique.
Il n'y a plus de structure du pouvoir.
Ils n'ont plus les moyens de la politique de Poutine.
Il y a débat avec Elsa Vidal.
Non, moi, je partage... Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par radicaux, etc., mais je pense qu'il y a, quand même, en fait, un prisme assez large de solutions qui s'ouvrent à nous. Il y a un prisme d'acteurs également assez large, mais dont on n'entend pas nécessairement beaucoup parler à l'heure actuelle. Effectivement, il y a un risque de dépassement par la droite, puisqu'il pourrait y avoir l'arrivée, enfin, la montée au créneau d'acteurs qui souhaitent une solution plus radicale. Ceux qui ont été excités par toute finalement l'idéologie développée par Vladimir Poutine, mais qui peut-être eux y croient et y adhèrent, et qui viennent effectivement d'un segment très près du cœur du régime, c'est-à-dire les structures de sécurité, pas l'armée justement, parce que l'armée est faible en fait en Russie, comme dans presque toutes les anciennes républiques soviétiques qui ne se sont jamais appuyées sur l'armée, qui s'appuyaient sur les services de sécurité. Donc les services de sécurité sont forts. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut voir arriver des libéraux? Alors attention, quand on dit des libéraux, ça ne veut pas dire nos libéraux, mais en tout cas des libéraux économiques et peut-être moins autoritaires, mais que généralement en France, on classerait quand même plutôt à droite. Donc est-ce qu'on peut voir arriver des libéraux au pouvoir? Ça demanderait qu'ils donnent des gages, malgré tout, à certains membres des structures de force pour être vécus et acceptés comme nouveaux leaders. Donner des gages, ce n'est pas nécessairement des gages politiques ou idéologiques, parce qu'en Russie, il faut bien comprendre, ce régime, il est question d'argent, il est question de pouvoir, il est question d'immunité. Donc, est-ce qu'on serait prêt à faire des tractations pour laisser l'immunité à certains d'entre eux? Mais il y a beaucoup de gens qui pourraient être des substituts à Vladimir Poutine, le maire de Moscou, l'actuel Premier ministre, certains technocrates, de l'opposition qui sont à Varsovie ou
Poutine,
à Bruxelles.
C'était le marionnettiste quand on a...
Évidemment, il a saisi des opportunités.
Attendez, j'en ai un autre. Dans la galaxie Poutine, vous allez me dire qu'il ne le remplacera jamais, mais quand même, je vais dire, Prigojine, le patron de Wagner.
Non, Prigogine ne pourrait pas.
Alors, attendez. Je veux qu'on s'arrête là-dessus, oui. Sur lui, et notamment sur les informations qu'on a eues avec ce déserteur de Wagner qui a été exécuté de manière absolument abominable, Antonin André.
Comme les Syriens avant lui.
Ce qui permettra, après, d'aller vers des questions sur Prigogine, qui veut montrer aussi, dans les réactions après cette élimination, qui veut montrer sa force, sa brutalité. Antonin, ne vous laissez pas dissiper. Racontez-nous,
c'est une vidéo qui
l'histoire tragique de ce déserteur.
C'est une vidéo qui a donc été filmée et volontairement rendue publique par les réseaux Telegram proches de Wagner. On voit un homme qui dit « Je suis Evgeny Anatolievich Nugin. Je suis né en 1967 et je suis venu dans cette guerre pour passer du côté ukrainien et pour combattre les Russes. » Il fait ce récit et il a une brique qui est accrochée à son crâne avec du film plastique. Cet homme-là est un homme, rapidement, qui a été recruté dans les prisons. On avait vu Prigogine aller recruter dans les prisons au mois de septembre. Il a 58 ans, il a deux enfants. Et donc, il dit « je suis allé là-bas », il le dit face caméra, à ce qu'on imagine être ses geôliers, pour basculer du côté ukrainien. Et puis, le 11 novembre, j'ai été assommé dans une rue de Kiev et je me suis réveillé dans cette cave où on m'a indiqué que j'allais être jugé. Et à peine a-t-il terminé son propos, qu'il prend un énorme coup de masse sur la tempe.
Puis un deuxième.
Et ensuite un deuxième qu'il achève à terre. Et il est mort. Et cette vidéo est donc passée sur les réseaux Telegram. Ce qui est intéressant, que je voulais vous signaler, c'est la façon dont ça a été commenté, notamment dans la vidéo, comment c'est titré dans la vidéo, c'est « Le traître a reçu la punition traditionnelle wagnérienne ». Et Evgeny Prigogine, dont on parlait, ami de sinistre souvenir de Poutine, dit « Ce film devrait s'appeler une mort de chien pour un chien. Excellente réalisation. » qui se regarde d'un souffle, et il ajoute « Aucun animal n'a souffert durant le tournage ». Ce qui, évidemment, renforce encore un peu plus le degré d'horreur qu'on pensait avoir atteint, mais que, visiblement, Wagner a encore des ressources.
Et Prigogine dit « Les Russes sentent la trahison. Sentent quand il y a trahison, là, il y a eu trahison. »
Oui, alors, pour revenir à la nature du régime poutinien et au rôle que remplit Evgeny Prigogine, c'est une nature criminelle. C'est une nature criminelle, c'est une nature mafieuse qui revendique des codes mafieux, des codes d'ultra-violence.
Là, on y est.
Là, on y est, mais on y est dès le début, je dirais, il y a 10 ans, puisque Prigogine, c'est lui-même un ancien prisonnier. Il a fait 9 ans de prison. Il a les codes des prisonniers, il est tatoué, il aime à exhiber ses tatouages de prison avec les gens qu'il connaît. Et donc, il pratique l'ultra-violence. Et quand on le voit haranguer les prisonniers pour les recruter, il ne fait pas du tout discrétion des traitements qui seront appliqués. Et ça participe également à la terreur, à la réputation de Wagner. Wagner, en 2017, avait déjà diffusé une vidéo d'un partisan syrien qu'ils avaient attrapé en Syrie, torturé à coups de masse, puis décapité, puis brûlé.
Sauf que là, c'est un déserteur d'un des leurs. Donc, c'est aussi un message envoyé aux gens qui se battent sur le terrain aujourd'hui aussi.
Mais bien sûr, c'est pour éviter ces désertions. C'est pour aussi se présenter comme un serviteur extrêmement zélé. Voilà, c'est l'ultra-violence. C'est ce qui est au cœur du régime, ce qui est revendiqué. Et puis, il faut dire que ces hommes qui sont recrutés dans les prisons, même pour leurs employeurs comme Prigogine, ils forment la lie de la société, c'est le dernier échelon. Et si en plus ils trahissent, alors voilà ce qu'on peut en faire.
Il était père de deux enfants.
Nicolas Tenzer.
Oui, d'abord, effectivement, plusieurs choses. D'abord, effectivement, ces hommes-là, je dirais, si ce n'était pas la lie de la société, ils ne seraient pas recrutés. C'est même la condition pour en être. Que deuxièmement, le criminel de droit commun, d'abord, avant de devenir un criminel contre l'humanité, Prigogine, c'est un ami de Poutine. C'est quelqu'un qui faisait partie des mêmes réseaux mafieux que Poutine. Poutine était déjà dans les réseaux mafieux à Saint-Pétersbourg en 1991. Il ne faut jamais oublier tout cela. Il était vraiment ami avec les gens de la mafia. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des dirigeants occidentaux ont voulu voir dans M. Poutine un dirigeant un peu comme les autres, alors un peu plus brutal, un peu excessif, mais en fait, ils avaient en face d'eux Totorina. Vous savez, le grand parrain de la mafia, je dirais, sicilienne, mort en prison, assez âgé d'ailleurs, etc. C'est exactement la même chose. Donc, par rapport à la discussion, juste un point qu'on avait eu tout à l'heure, Prigogine arrivé au pouvoir, non. Prigogine être peut-être instrumental dans une défaite de Poutine, une éviction de Poutine, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il lui-même, il déteindrait le pouvoir. Après, Je dirais, la question qui va se poser très concrètement, c'est pas est-ce qu'on a plus extrême que Poutine. Encore une fois, je veux dire, Poutine, il est quand même le responsable de centaines de milliers de morts. Mmh. Donc, je veux bien qu'on ait plus extrême.
On part
quand même à certains niveaux. Le vrai sujet après, ça va être effectivement ce qu'évoquait Elsa Vidal, c'est-à-dire la question de la transaction. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont impliqués dans ce système criminel. Impliqués dans des actions de corruption, petites ou grandes. Alors, majeures, parfois sur des milliards d'euros, hein, dans certains cas de grands oligarques, parfois des petites corruptions. Bon, il va falloir trouver effectivement à un certain moment, je dirais peut-être des systèmes pour que ceux qui seraient quand même pas impliqués dans des affaires criminelles.
Toutes les élites sont corrompues.
Voilà.
Il y a pas du tout de. En fait, il faut redescendre très très bas pour arriver à avoir.
Voilà. Mais encore une fois, je pense que la limite c'est quand même le crime. Et il y a suffisamment de personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans un crime de sang pour qu'au moins cela ne fasse pas partie du pouvoir. Dernier point rapidement, le risque aussi pour les Occidentaux, c'est de dire, voilà, on s'est débarrassé de Poutine, très bien, il faut le faire, hein, bien sûr, je suis d'accord là-dessus, mais maintenant, on a quelqu'un d'autre, on va limiter les sanctions, on va passer l'éponge sur un certain nombre de choses. Non. Et je pense que ça, c'est vraiment le piège pour les Occidentaux. Il faut absolument continuer, il faut aller jusqu'au bout, tant que les réparations n'ont pas été payées, que les crimes n'ont pas été jugés, l'Ukraine n'est pas véritablement en paix, que la Moldavie, le Bélarus surtout, la Syrie ne sont pas laissés tranquilles. Il ne faut pas que les Occidentaux relâchent la pression. Ça, c'est essentiel.
Sergueï puis Guillaume,
Moi, je crois que Prigojine a commis aujourd'hui sa plus grave erreur. Et à mon avis, politiquement, il est mort. Il est mort avec cette vidéo qui l'a fait circuler. Parce que déjà, Poutine, à mon avis, il a fait pression sur lui. Vous savez, c'est un système mafieux dans lequel on dit tu dois proclamer ta parfaite allégeance au parrain qui est Poutine. Et en fait, elle a exigé de lui deux choses. D'abord, reconnaître que Wagner, ça lui appartenait. Parce qu'il a poursuivi plusieurs personnes qui l'accusaient de l'avoir fait. Il a gagné les procès. Les personnes ont payé les amendes. Maintenant, il a affirmé que il est le patron de Wagner. C'est interdit par le code pénal russe. Mm-hmm. L'article 359. 8 ans de prison. Donc ça, il l'a fait. Et avec cette vidéo-là, là, c'est un assassinat. Et c'est justement ça ce que Poutine a réussi toujours à faire pendant 22 ans. Ça veut dire qu'on pouvait lui reprocher quoi que ce soit, mais jamais on pouvait lui dire « Tu as ordonné l'assassinat de Politkovskaya. Tu as ordonné l'assassinat de Nemtsov. Tu as ordonné l'assassinat de Litvinenko. » Personne ne pouvait reprocher ça. À Prigojine, on peut lui reprocher ça.
Il se trouve qu'il a un siège flambant neuf qu'on a vu ici.
Oui, mais sauf.
Il a pignon sur rue à Saint-Pétersbourg. On imagine,
parce qu'on a vu déjà ça. On a vu déjà plein de gens qui avaient des sièges, des grands sièges, et qui sont retrouvés du jour au lendemain. Les Berezovski, les oligarches qui avaient 15 milliards de dollars, 20 milliards de dollars, et du jour au lendemain, ils sont retrouvés en prison, ils sont morts en prison au Matrosskaya Tichina, ils étaient jugés, ils étaient forcés à l'exil. Et donc, Prigojine, à mon avis, il ne va pas durer longtemps.
Guillaume Ancel.
Un mot sur les mercenaires. C'est vraiment une population très particulière. Il y en a même qui m'ont fait des procès. Mercenaires, Wagner, sont des chiens de guerre. Il faut bien garder en mémoire que ce sont des soldats perdus. Une violence sans limite, on a eu la démonstration là, mais on le savait, ils peuvent rien construire. Ils ne savent que détruire. C'est pour ça, c'est ce qu'on découvre plutôt en Afrique avec la milice Wagner. C'est qu'ils ne rétablissent pas la paix, ils appliquent la terreur. Donc, de vouloir faire jouer un rôle au patron de Wagner, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est une marionnette de l'ultra-violence que peut déchaîner Poutine quand il en a besoin. Pour moi, si on enlève Poutine, Prigojine disparaît.
C'est un Doberman.
Il n'est pas capable de construire, mais en revanche, il y avait une enquête du Monde récente, il est capable d'exploiter. Comme l'or, par exemple, au Soudan.
C'est un système économique, c'est un système mafieux, vous l'avez très bien dit.
Elsa, déjà, une réponse par rapport à ça.
Pourquoi ?
Vous avez eu l'information par rapport à ce crime. Il paraît que le parquet général a...
Ah oui, effectivement, il y a une demande d'ouverture d'une enquête pour assassinat.
Alors, le parquet russe, il y a déjà... On a posé ce matin la question à Peskov, il a dit, ça ne nous concerne pas.
Oui, mais ça y est, si.
Et ben maintenant, ça le concerne.
Parce qu'il n'y avait pas eu de condamnation officielle, effectivement, ah oui. de Kremlin qui aurait
pu... Et c'est quand même une réponse à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'où va le système Poutine, de quoi peut-on se débarrasser tout en conservant un État fonctionnel. Mais en fait, au niveau intermédiaire de l'État, donc l'État russe, c'est un État fédéral, mais, et donc il y a cette couche supérieure, c'est-à-dire tous les ministres, on va dire, qui prennent les décisions et leur appareil rapproché. Mais à la couche... Au niveau intermédiaire des fonctionnaires, on a énormément de gens capables, on a énormément de techniciens, de responsables locaux qui connaissent très bien leurs administrés, qui connaissent la réalité des problèmes, parce qu'eux, ils doivent les gérer avec des bouts de ficelle et en devant présenter les choses selon un jour qui plaît au pouvoir politique. Au niveau politique, presque tout le monde est corrompu et en tout cas impliqué dans le système. Au niveau intermédiaire et beaucoup plus proche du terrain et, j'ai envie de dire, technocrate, il y a beaucoup de très bons experts. Et donc, dans ce vivier-là, on peut trouver aussi les gestionnaires de demain.
La question de l'après-Poutine, de l'après-Kherson, puis de l'après-Poutine, ça passe aussi peut-être en ce moment par ce qui se passe du côté de l'Indonésie, où on a ce G20 qui doit commencer dans les heures qui viennent, tous les dirigeants sont déjà arrivés, avec un certain nombre de discussions avant les Natalaya, et avec une ambition affichée notamment par Emmanuel Macron, qui est de dire, on va essayer, nous, de demander aux Chinois, aux Indiens, d'aller faire pression sur Poutine pour le ramener à la raison et pour le ramener à la table des négociations.
Oui, tout à fait. Ce que Joe Biden aussi fait, le président américain, et maintenant c'est là-dessus que les efforts diplomatiques s'intensifient. Emmanuel Macron, il va voir le président chinois demain, Xi Jinping. Au passage, il va aussi croiser peut-être Giorgia Meloni, mais ça c'est un autre dossier, enfin, ça va être une grosse journée. Et dans l'immédiat sur la Russie, Emmanuel Macron, il se présente toujours en Europe comme le seul canal aussi par lequel les discussions peuvent un peu passer avec Poutine, puisque Poutine n'étant pas présent au G20, Emmanuel Macron dit qu'il va l'appeler à l'issue du G20. Et on sait qu'il y a plusieurs pays comme les Britanniques ou d'autres qui ne parlent absolument pas à Poutine aujourd'hui dans l'univers européen. Donc c'est important qu'il reste quand même le président français pour lui parler parce qu'il est tellement isolé qu'il n'est même pas venu aujourd'hui au G20. Alors soit parce qu'en effet il a des craintes pour sa propre sécurité, soit parce qu'il sait qu'il est un paria aujourd'hui sur le plan diplomatique, alors qu'en 2014, après l'annexion de la Crimée, époque au G20. Mais il avait été tellement humilié par les autres que finalement, vous vous souvenez, il avait pris l'avion, il était parti un peu plus tôt. Bref, il y en a un aujourd'hui pour continuer à parler à Poutine, c'est Emmanuel Macron. On ne sait pas très bien ce qu'il pourra en tirer dans les médias parce que les négociations, c'est un univers encore tellement lointain qu'on n'en est pas là. Au moins un peu sentir le pouls, savoir si cet homme qui a subi tant de revers et tant d'échecs est profondément déstabilisé ou pas. Qu'est-ce qu'on peut maintenir avec lui encore comme communication à minima, parce que vraiment, les négociations, comme vous le disiez tous, c'est fantasmagorique pour l'instant.
Sergueï Gerlov, on a Emmanuel Macron qui a effectivement cette idée en tête de dire on va demander aux Chinois, on va demander aux Indiens d'aller faire pression sur Poutine. C'est un peu ce qu'a essayé de faire aussi Biden aujourd'hui. Il y a eu 3 heures de discussion avec Xi Jinping, c'était jamais arrivé entre le président américain et le président chinois depuis l'arrivée de Biden au pouvoir. Mais est-ce que ça a une chance de peser in fine sur Poutine, tout ça?
Justement, moi je voulais intervenir, parce que pour les pourparlers, il faut être deux. Et donc, je suis désolé pour le président français, mais Poutine, à mon avis, a très peu envie d'écouter ce qu'il dit. Et ça, c'est malheureusement, c'est une réalité, parce qu'en fait, on a vu qu'il a passé son heure au téléphone avec Poutine, et à un moment donné, il était obligé d'abandonner ça parce que Poutine ne l'écoutait pas. Maintenant, après, en fait, il a pris un discours très ferme à partir du mois de juillet, il a répété jusqu'au mois de septembre, et après, il a changé encore d'avis, il a recommencé à dire, oui, il faut parler toujours avec Poutine. Mais bon, franchement, à mon avis, il se trompe, parce que Poutine... malheureusement pour lui, n'a pas énormément d'estime pour lui et ne veut pas qu'il s'en mêle de ça. En revanche, il y a Xi Jinping, ça c'est vrai. Il y a le Turc, il y a Erdogan aussi. Et donc, à mon avis, c'est beaucoup plus la Turquie et la Chine qui peuvent, parce que et les Chinois et les Turcs sont en bon rapport avec Poutine. Et la Turquie, en plus, elle est dans l'OTAN. Donc, elle joue sur tous les tableaux. Et en plus, Erdogan a besoin de ça, parce que sinon, le 18 juin l'année prochaine, il ne sera même pas réélu. Et donc, là, nous avons une concordance. Mais surtout qu'aujourd'hui, quand même, la rencontre entre Biden et Xi Jinping avant le début de la conférence, là, c'est quelque chose qui est frappant, oui. qui est extraordinaire. Et puis, il y a les Allemands aussi, parce que les Allemands ont changé complètement de politique. Personne, enfin, très peu de gens ont remarqué, mais après le discours de Steinmeier il y a 2 semaines, l'Allemagne a clairement dit maintenant la Russie, on oublie maintenant notre réel politique, on oublie Poutine-Verstein. Maintenant, on parle quelque chose de, on parle d'idéologie. On oblige Poutine à revenir vers la raison.
Guillaume.
Sergueï, tu m'obliges à défendre le président Macron. C'est le rôle pour moi de Macron de maintenir ce lien, à condition qu'il le fasse en lien avec l'Union européenne. Il faut continuer à parler à ce type jusqu'à ce qu'il soit évincé, c'est-à-dire dans mon esprit, éliminé. C'est très important et c'est une image qu'on n'a pas su assez montrer ce soir. C'est cette extraordinaire photo de la place de Kherson avec le drapeau ukrainien et le drapeau de l'Union européenne. C'est une victoire des Ukrainiens, la libération de c'est Kherson. Vrai. Mais c'est aussi une victoire de l'aide occidentale. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, on n'ose pas assez le reconnaître. Les Ukrainiens se battent avec un courage fantastique, mais tout le reste, l'aspect matériel, logistique, le renseignement, le niveau de formation de l'armée... L'armée ukrainienne que j'ai connue, moi, c'était une armée qui était digne de l'armée soviétique, qui n'aurait jamais pu se battre comme elle le fait aujourd'hui contre l'armée russe. Et ça, ce sont les Occidentaux qui l'ont apporté et les Ukrainiens l'ont remarquablement utilisé pour se libérer. Mais le fait qu'on parle à Poutine, que le président Macron nous dise « moi, je veux conserver un lien avec lui », c'est juste pour empêcher que l'autre puisse commettre l'irréparable et nous emporte dans sa chute. Et je pense que là, il joue un rôle... qui est incontournable. Après, il n'obtiendra rien de lui. Je vois déjà Nicolas qui fait... Mais il n'obtiendra rien de lui, et c'est clair. Et je pense que ça fait longtemps qu'il a renoncé à obtenir quoi que ce soit de Poutine. On se souvient de ces images inouïes. On voit le président qui essaie de discuter avec lui pendant que Poutine fait son sport, et qui s'en fout, mais complètement, de ce que lui raconte le président Macron.
Nicolas Tenzer.
Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière. Il y a un premier sujet sur, effectivement... parler avec Poutine, je pense que ça a un intérêt sur un seul plan, c'est de percevoir effectivement dans quel état d'esprit il est. Mm-hmm. Je pense que de ce point de vue-là, je pense que ça peut apporter quelque chose et que ce n'est pas uniquement la même chose que des contacts à des niveaux inférieurs, comme entre Jake Sullivan et son homologue Patrouchev ou d'entre les services secrets, la CIA et les services russes, etc. Donc ça, je pense qu'il peut y avoir un intérêt pourvu qu'il n'y ait plus de confusion. Il y en a eu au début, je pense qu'il n'y en a plus maintenant, mais qu'il est parfaitement clair que vraiment, il ne va pas y avoir de tentative de la France de jouer un jeu séparé. Mais faisons quand même attention, deuxièmement, au langage. Ne parlons pas de perspectives de paix, d'accords de paix, de perspectives de négociation, de retour à la table, de tous ces trucs, même loin.
Ça n'existe pas.
Ça, surtout, évitons de faire ça, parce que ça divise. Et je le dirais la même chose à l'équipe du président Biden, hein, de même que je peux le dire à l'équipe du président Macron. C'est, ça divise le front occidental, ça divise le front européen. Dernier point, sur les rencontres, je dirais, et les approches de Xi Jinping, de Narendra Modi ou d'Erdogan, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit véritablement utile. Je ne vois pas ce que la Chine va dire à M. Poutine. Est-ce que la Chine va dire maintenant, Poutine, Vladimir, tu retroupes tes troupes d'Ukraine ? Non, ils ne vont pas leur dire ça. L'Inde non plus. Et l'Inde, qui est un État profondément autoritaire, même si c'est une démocratie, la Chine qui est un État totalitaire, ont plutôt intérêt d'avoir un régime dur, voire même dictatorial, disons-le, à la tête de la Russie. Ils n'ont pas envie d'une transition démocratique. Donc faisons très attention de ne pas présenter, je sais que l'Inde en particulier le veut beaucoup plus que la Chine, de présenter ces pays comme des médiateurs possibles. Là, ce serait une faute politique, une faute diplomatique et une faute stratégique.
Bon, on arrive au bout de cette conversation. J'aurais rêvé qu'on parle de Lavrov, qui est arrivé pour le G20 remplaçant Poutine. À peine arrivé, les autorités locales ont expliqué qu'il avait dû être hospitalisé. Il a dit non, il est réapparu sur sa terrasse, en grande forme et en short, avec son iPhone et son Apple Watch, comme tout occidental qui se respecte.
Et son t-shirt Basquiat.
T-shirt Basquiat.
Amateur d'art.
Malheureusement, on arrive au bout. Je suis désolé, mais j'aurais bien voulu qu'on en parle. On arrive au bout. Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir été avec nous ce soir. En direct dans un instant, toute l'actualité, toutes les images du jour, c'est avec Rachid Embarki sur BFM TV. À demain.